Aujourd'hui, chers amis, j'ai envie de vous faire découvrir de l'art au sens propre du terme. Je vais vous faire découvrir un poète, un barde, un rhapsode de mes amis. Il a commencé à écrire des rimes amuseuses il y a quelques années. Puis, c'est devenu une passion et c'est devenu le souffle de sa vie comme la littérature l'est pour les gens passionnés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps de remercier mes abonnés pour l'effort d'écoute qu'ils font. Pendant les 30 derniers jours, notre podcast a connu une croissance en audience de 80%. Cela, je vous le dois, à vous tous qui m'écoutez. Je veux parler notamment de mon audience à Vannes, Marseille, Lyon, Paris, en France, de Greeley, Wellington, Ashburn, Memphis, Chicago, aux États-Unis, Abidjan, en Côte d'Ivoire, Cotonou, Calavi, Kandy, au Bénin, Lubumbashi, en RDC, de Veito, en Suisse, de Uccle, en Belgique, de Ciudad Vela, au Cap-Vert, et de León, au Mexique. Je vous remercie pour le soutien et je promets de faire mieux. Aujourd'hui, chers amis, je vous présente le poète de pacotille. Il a voulu s'encombrer de ce sobriquet parce que, comme les plus grands génies de l'histoire, George Sand, les sœurs Brontë et autres, il a voulu garder l'anonymat jusqu'à ce que son caractère taciturne lui permette de se montrer au grand public. Pendant les prochaines semaines, je vais vous exposer 4 des poèmes qu'il m'a recommandé lui-même. Poèmes tirés de son recueil de poèmes qui portent le même nom. Le poète de pacotille. Dans quelques mois, ce recueil sera disponible pour l'achat dans toutes les librairies à la surface du globe terrestre. Et ils paraîtront sous les éditions Aismeric Bénin, ma maison d'édition. En attendant, aujourd'hui, je vous emmène dans une virée de douces métaphores, de vrais sentiments aiguisés au rythme des battements d'un cœur brûlé par l'amour et l'humanisme. Le poète de pacotille, c'est l'histoire d'une vie racontée de manière rimée. Dans ce recueil de poèmes, vous découvrirez les thèmes sociaux les plus importants de la société, c'est-à-dire l'amour, la mort, la vie, l'enfance, le déclin. Le poète de pacotille est un dessin réaliste de notre existence. Il n'embellit ni n'enlaidit la réalité. Il vous repeint les belles choses de manière à vous donner de l'espoir. En quoi? On le lui demandera un de ces jours. Puis, vous représente les choses laides telles qu'elles sont, de manière à vous rappeler qu'elles existent aussi. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous présente un des poèmes du très illustre poète de pacotille. Le titre, c'est « Quand deux verbes se suivent ». On y va. Un jour, dans l'invisible, deux souffles se croisèrent. Un verbe disait « venir », l'autre disait « attendre ». Un frisson dans le monde, un silence en éclats. Deux âmes se nommaient, sans encore se connaître. Leurs regards ont parlé, bien avant les visages, et l'univers ému s'est arrêté de fuir. C'était un mot ancien, un feu doux, une danse. Quand deux verbes se suivent, le destin peut s'écrire. Ils se sont dit, pour toujours, d'un murmure sincère. Deux verbes conjugués sous le ciel d'une fois. Leurs mains se sont liées, leur silence aussi clair qu'une source au matin, qu'un serment sans effroi. Ils ont dressé l'autel d'un avenir à deux, gravé des mots si tendres que l'amour s'en souvient. Le monde applaudissait, discret derrière eux, quand deux verbes s'accordent, un enfant vient plus loin. Ils se sont vêtus sans ôter l'essentiel, le cœur grand ouvert et les âmes offertes. Leur élan fut promesse et le souffle rituel. Un serment sans parole, une clarté discrète. Chaque geste était verbe et chaque peau, poème, un murmure incarné dans la langue du feu. Ils s'aimèrent très fort, tendrement, sans problème. Quand deux verbes se suivent, tout devient précieux. Puis vint ce frémissement qu'on ne voit ni n'entend, un éclair dans la nuit, mais d'une paix profonde. Leur corps s'était aimé, le ciel fit le restant. Un secret dans les eaux, une fusion féconde. Deux cellules s'unirent en une seule danse. Un œuf frêle miracle au silence vainqueur. Et le temps suspendu bénissait l'instant tendre. Quand deux verbes se suivent, naît un œuf de splendeur. L'union des souffles en silence fit lumière. Une cellule dansa, première messagère. Sous la chaleur du sein, elle trouva la terre où l'amour se déposa discret, sans frontières. L'œuf s'ancre et se cache, bijou dans l'invisible. L'univers tout entier devient indétectable. Un secret se tisse au creux d'un sanctuaire. Quand deux verbes se suivent, un mystère s'installe. Dans l'ombre d'un secret, l'ébauche prend lumière. Un souffle se divise et bâtit l'invisible. Un cœur minuscule bat sans savoir pourquoi. Des membres se dessinent timides et fragiles. Le temps, doux artisan, façonne chaque trait comme un poème écrit au creux d'un sanctuaire. Un monde minuscule apprend à devenir. Quand deux verbes se suivent, la chair devient prière. Elles sont chaque geste, chaque tressaillement. Lui perçoit sa chaleur comme un champ intérieur. Des rêves sans image peuplent ce lent instant où le fœtus vibrant devient porteur d'ailleurs. Les sons, les voix, les peaux murmurent l'héritage. L'amour se fait bercement, le verbe devient peau. Un cordon invisible unit deux devenir. Quand deux verbes se suivent, l'écoute touche l'écho. Le temps s'est fait silence au bord de l'infini. Chaque battement compte, chaque heure est un poème. Les mains frôlent le vide, mais le cœur est rempli de promesses futrées, de tendresse suprême. Le monde est en veille, les astres sont témoins que bientôt l'invisible offrira sa lumière. Deux âmes en veille, pris l'aube d'un matin. Quand deux verbes se suivent, la lumière espère. Dans le ventre du temps, un secret se prépare. Invisible miracle, tissé d'ombre et de miel. Le souffle des étoiles descend sans faire d'écart pour bénir ce passage entre silence et ciel. On ne dit pas encore, mais l'on devine en soi que le verbe incarné frôle déjà la voix. Quand deux verbes se suivent, l'univers devient chair et l'amour se recueille au seuil du grand mystère. Le poète de Pacotille. Alors, c'était là le poète de Pacotille. J'aimerais tellement vous dire son nom, mais il m'en voudrait parce qu'il m'a spécifiquement interdit de le rendre public pour l'instant. Voyez-vous, on ne va pas simplement lire le poème du poète de Pacotille, mais de façon très humble et pas prétentieuse du tout, nous allons en dire quelques mots. Comme vous l'auriez certainement compris, si vous avez bien suivi jusque-là, ce beau texte aborde le sujet de la création d'une façon particulièrement originale. Création de quoi, me demanderez-vous ? Création de la vie, vous répondrai-je. Quand deux verbes se suivent, le titre du poème en lui-même est révélateur, car beaucoup de conclusions peuvent être tirées de lui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un verbe ? En théologie, il s'agit de la parole de Dieu, du verbe de Dieu, c'est-à-dire le principe de la raison divine, d'où vient le tout. Le verbe, c'est le noyau de la création. C'est l'expression de la divinité qui se fait tangible. Mais au-delà de cela, le verbe à la base, c'est l'élément primordial d'une phrase. C'est l'élément qui définit le sens d'une phrase, ou plus simplement d'un groupe de mots. S'il n'y a pas de verbe à l'intérieur d'un groupe de mots, ce n'est pas une phrase, n'est-ce pas? Autrement, le verbe, c'est aussi le mouvement. Le verbe, c'est l'action. Ce qui meut, ce qui met en mouvement. Le verbe, c'est l'âme. Rappelons-nous que le mot âme vient du latin anima, qui signifie souffle ou respiration. En même temps, quand on entend anima, qu'est-ce qu'on peut conclure d'autre? À quel mot peut-on penser quand on entend anima? On peut penser au verbe animer. Animer, c'est ce qui fait mouvoir, ce qui fait vivre. C'est de lui que le monde a été créé. Nous savons que toute création, quelle qu'elle soit, vient de la conjonction de deux principes sexuels, qui sont les principes mâles et femelles. Et quand je parle de principes sexuels ici, je ne parle pas de sexuel comme sexuel dans le sens dénaturé que les humains ont donné à ce caractère-là. Je parle de sexuel dans le sens créatif. Sexuel est dans le sens de la création où, pour créer une chose, il faut impérativement que viennent ensemble un principe mâle et un principe femelle. Quand le poète dit « deux verbes se suivent », il caricature à sa façon la double présence, le dédoublement de ce principe créateur qui vient en conjonction avec lui-même pour se recréer. À travers quoi? À travers l'enfant qui naît à la fin de ce poème. Messieurs, l'amour est un processus. L'amour est un processus que certainement jamais nous ne comprendrons. Quand nous tombons amoureux d'une personne, eh bien nous ne savons pas exactement pour quelle raison nous sommes tombés amoureux de cette personne-là. On sait juste que subitement on commence à ressentir des picotements dans les parties quand on pense à cette personne. On sourit bêtement quand on pense à cette personne ou quand on la voit et on n'a que de bons sentiments vis-à-vis de cette personne, n'est-ce pas? Mais plus tard, on veut exprimer cet amour à travers l'acte sexuel. On veut ressentir cette chose-là, ce picotement qu'on a dans le cœur. On veut l'étendre, d'accord? On veut l'exprimer à cette personne. Les biologistes peuvent dire que l'amour, c'est juste des hormones, c'est juste une réaction chimique qui se fait dans le cerveau. Oui, peut-être. Mais qu'est-ce qui crée cette réaction chimique? L'enfant vient de l'expression de ce désir qu'entraîne l'amour. L'amour, quand il est ressenti entre deux personnes, il crée le désir de création. Parce que, rappelez-vous, nous avons discuté une fois du désir de création. Tout autant que nous sommes, nous avons le besoin de persévérer dans l'existence. Et persévérer dans l'existence, c'est de faire en sorte que notre passage ne soit pas vain. Et pour que notre passage ne soit pas vain, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons une progéniture. Nous créons des enfants. Qu'est-ce qui fait que nous créons des enfants? Quelque part, dans notre tête, on a envie de voir le futur. Et la meilleure manière de voir un futur dans lequel certainement nous ne serons pas, c'est de laisser une personne qui vient de nous et qui peut voir ce futur à notre place. C'est en cela que l'amour, d'accord, qui est le besoin même de la vie de continuer à progresser, c'est en cela que l'amour s'exprime à travers nous. Et nous autres, nous exprimons cet amour physiquement avec une personne. Et c'est en cela que nous, en tant qu'homme, c'est-à-dire principe mâle, entrons en conjonction avec une femme, c'est-à-dire principe femelle, et nous fusionnons pour ensuite donner ce qu'on appelle une création, c'est-à-dire un enfant. C'est cet enfant qui naît à la fin de ce poème du poète de Pacotille. Mais avant l'enfant, il fait savoir que ce n'est pas juste une création vide. C'est une création qui suit le circuit parfait de toute création. Suivez bien. Dans la première strophe, il commence par dire « Un jour, dans l'invisible, deux souffles se croisèrent. » Déjà, j'aime bien la métaphore de l'invisible à cause de ce qu'elle symbolise. Elle peut être interprétée de plusieurs manières. Mais précisément, elle symbolise l'accident, l'inconnu, ce qui n'était pas prévu. Car l'invisible, qu'est-ce que c'est? C'est le champ de toutes les possibilités qui sont cachées aux yeux des humains. Alors, de cet invisible, deux souffles se sont mêlés. Un verbe disait venir et l'autre disait attendre. Là, il parle de l'introduction de deux cœurs qui se disent ce dont ils ont besoin. Les deux se comprennent sur un détail. Ils veulent se rejoindre. Mais le mouvement naturel des deux cœurs doit se poursuivre. Le cœur qui disait « venir », c'est le principe féminin. C'est lui qui reçoit. L'autre qui disait « attendre », c'est le principe masculin, celui qui donne. Au bout de cette strophe, comprend l'accord des deux cœurs. Car là, il dit « quand deux verbes se suivent, le destin peut s'écrire ». Les deux verbes se suivent, attendre et venir. C'est là l'expression, la conversation entre ces deux cœurs, qui bien que suivant toujours leur mouvement naturel de fuite et de poursuite, se promettent l'éternité. C'est cela la promesse de l'amour. La deuxième strophe commence et le poète Pacotille nous rappelle l'éternité de cette promesse. Ils se sont dit « pour toujours ». D'un murmure sincère. Puis il dit ensuite deux verbes conjugués sous le ciel d'une fois. Deux verbes conjugués. Au sens figuré, la conjugaison, c'est la liaison. La mise ensemble, la fusion de deux verbes qui se sont préalablement promis l'éternité. L'éternité comme étant un présent infini. Un présent dans lequel le passé et le futur n'existent pas. Parce que le passé a arrêté d'exister pour l'un et l'autre de ces deux verbes. Car maintenant, ils existent en une seule. De leur version ancienne qui sont mortes quand ils se sont promis l'éternité. Le futur aussi n'existe plus. Parce qu'il n'est que nominal. Dans ce présent où l'on fusionne l'un avec l'autre, on ne pense ni ne vit le lendemain. Le lendemain est toujours une illusion qui ne viendra jamais. On vit toujours dans le présent, car l'amour ne connaît que le présent. Pourtant, dans un autre sens, la conjugaison, qu'est-ce que c'est? En grammaire, la conjugaison, c'est l'accord qu'on place à un verbe pour qu'il reflète un temps, n'est-ce pas? Donc, que le mot conjugaison soit employé au sens propre comme au sens figuré, il nous ramène à la même histoire, n'est-ce pas? Puisque nous parlons toujours ici de temps. Donc, les deux verbes qui se conjuguent ensemble. Qu'ils soient dans le passé, ils seront ensemble dans le passé. Ils seront actifs ensemble dans le passé. Qu'ils soient dans le présent, ils seront actifs ensemble dans le présent. Qu'ils soient dans le futur, ils seront actifs ensemble dans le futur. Et dites-vous que deux éléments qui sont actifs en même temps dans un temps donné sont toujours actifs au présent. Ils ne peuvent être actifs qu'au présent. Quand je suis actif au moment où je suis en train de parler, actuellement, je suis en train de parler, n'est-ce pas? Je parle. Là, tout de suite, je suis en train de parler. Donc, je ne peux pas être en train de parler au passé. Puisque je suis en train de faire l'action actuellement, je suis actif. En même temps, je ne peux pas être en train de parler au futur, puisque je ne ferai pas l'action, je fais l'action actuellement. Ce qui veut dire que, pour moi actuellement, pour tout le temps que va durer cet enregistrement, je serai toujours au présent. Je ne serai jamais dans le futur et je ne serai jamais dans le passé. Je serai toujours au présent. Même si, il y a une seconde, j'étais encore dans le passé, et dans une seconde, je serai déjà dans le futur, mais je continuerai toujours d'être dans le présent, puisque le moment présent est infini. Vous me suivez? Donc, les conjugaisons, les deux sens du mot conjugaison se rejoignent sur les deux plans. Dans la troisième strophe, il commence en disant « Ils se sont dévêtus sans ôter l'essentiel ». Alors, ici, la phrase est simple, mais elle est délicate en même temps. La raison en est que quand on se dévêtit, on se rend vulnérable. Vous vous rappelez un épisode précédent où on parlait de la vérité, n'est-ce pas? Voilà. Quand on se dévêtit, on montre sa vulnérabilité. Quand deux cœurs qui se sont promis l'éternité se dévêtissent, ils se rendent vulnérables l'un vis-à-vis de l'autre, et surtout l'un pour l'autre. Mais plus loin encore, ils construisent ensemble une réalité profonde en espérant qu'elle s'aligne avec la réalité transcendante. Quand on se dévêtit devant un autre cœur, c'est pour s'offrir à lui. Mais quel est cet essentiel dont on ne se débarrasse pas? Cet essentiel, c'est l'âme. Ainsi, les deux cœurs se dévêtissent, puis s'offrent l'un à l'autre leur âme respective. On ne peut pas parler d'amour sans parler d'âme. Dans cette strophe, l'auteur décrit l'amour sexuel, celui qui unit deux corps et deux cœurs à travers les gestes et les mouvements du corps. Il nous rappelle ici que le sexe, loin d'être un acte vulgaire, c'est l'expression enflammée des âmes qui s'expriment de la seule manière que le corps peut comprendre. Les trois strophes suivantes continuent de décrire cet acte merveilleux qu'est l'amour charnel. Les âmes se mélangent, puis se rendent vulnérables, puis se mélangent l'une à l'autre dans l'acte le plus merveilleux, le plus pur que Dieu ait jamais créé. Cet acte, c'est l'acte de la procréation, c'est-à-dire la création assistée d'un partenaire. L'engendrement où le mâle et la femelle se mélangent pour donner un sujet né de cette union. On appelle cela le fruit de l'amour. On appelle cela l'enfant. Vous comprenez que quand l'on grandit et quand on arrive à un certain âge, généralement, on appelle ça l'âge de la procréation, où les hormones et tout ce qui va avec commencent à nous taper dans le système et on a envie d'aller vers le sexe opposé. Quand ce moment arrive, quand deux jeunes personnes se retrouvent en face l'une de l'autre, eh bien, personne n'a besoin de leur dire ce que c'est que le sexe. Personne n'a besoin de leur expliquer ce que c'est que l'amour charnel, parce que c'est une notion innée qui est inscrite en nous. Le corps sait, l'âme sait qu'elle doit s'exprimer de cette façon-là, à travers le corps. Du coup, même si vous n'apprenez rien, d'accord, même si vous n'avez rien appris du tout de ce qu'on appelle la reproduction, eh bien, quand le moment va venir et quand vous vous retrouverez en face d'une femme, si vous êtes un homme, et en face d'un homme, si vous êtes une femme, eh bien, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Parce que l'amour s'exprime à travers vous. L'amour s'exprime à travers votre corps, parce que l'amour est divin. L'amour n'est pas matériel. L'amour n'est pas tangible. Du coup, la seule façon dont il puisse s'exprimer, pardon, cette seule façon-là, c'est le corps, l'amour charnel. La sexualité, c'est la seule façon dont deux âmes puissent s'exprimer. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pour cette raison que le sexe, c'est le symbole de la création. C'est le symbole de la création. Le sexe n'est pas créé pour distraire des corps, des personnes désœuvrées. Le sexe n'a pas été créé pour que des personnes qui n'ont pas un boulot se mettent à copuler comme si il n'y avait rien d'autre à faire. Le sexe, c'est symbolique. C'est ce que l'univers a décidé d'utiliser pour que la vie puisse persévérer dans l'existence. Si le sexe n'existait pas, la race humaine aurait disparu. Si le sexe n'existait pas, la race animale complète aurait disparu. Si le sexe n'existait pas, la race végétale aurait disparu. Et je sais que là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que les plantes font l'amour aussi? Moi, je dirais oui, les plantes font l'amour aussi. Et c'est pour cette raison que je disais plutôt que le sexe, quand je parle de sexe ici, de principe mâle et de principe femelle, ce n'est pas de la façon vulgaire dont les humains voient le sexe. Hein? Le sexe est un symbole de création. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les coïts voyous que nous sommes. Hein? Quand on dit « Oh, j'ai envie de toi, je veux faire telle chose avec toi, je veux. » Et on se met nu, on se fait des conneries, et puis voilà. Bam, on part chacun de son côté. Ce n'est pas ça. Quand on parle de sexe, c'est une chose à respecter. C'est cette chose-là que la vie utilise pour se perpétuer dans l'existence. Autrement dit, le sexe n'a qu'une seule utilité, en fait, c'est de procréer. C'est de créer la vie humaine. Et à part les humains, aucun autre être vivant n'utilise le sexe pour autre chose. Quand on parle de création, de procréation chez les animaux, ils copulent, ils font ce qu'ils doivent faire uniquement pour procréer. Les animaux ne se mettent pas ensemble pour juste assouvir un désir. Non, ils se mettent ensemble pour le désir de la création. Voilà. Ce poème me touche particulièrement parce que je revois le caractère immuable de l'art en dedans de lui. Et si j'avais écrit ce poème certainement, eh bien je ne l'aurais pas écrit d'une manière plus différente que ça. Bon, il est vrai que deux écrivains ne peuvent pas être identiques, donc vous comprenez bien que je parle du produit dans son fond, pas dans ses spécificités. Alors, plus loin, il revient encore. Dans le ventre du temps, un secret se prépare. Il y a tellement de manières de désigner la matérialisation d'un enfant. Et ici, le poète de Pacotti nous en a montré quelques-unes. Un enfant naît de parents, n'est-ce pas? Mais avant de naître, il faut qu'il grandisse et qu'il soit biologiquement préparé à affronter le monde hostile dans lequel nous vivons. Et cette croyance se fait avec du temps. Autrement, dans le ventre de la mère, l'enfant est toujours le secret du temps. Parce que seul le temps peut décider du développement de l'enfant. Dans le ventre du temps, c'est une métaphore pour désigner l'attente patiente et préservatrice de surprise. C'est justement dans le fait de la surprise qu'il y a d'abord l'existence du secret. Parce qu'une chose ne peut pas surprendre si on la savait déjà. Il faut donc qu'elle soit d'abord secrète, même vis-à-vis des parents. L'enfant reste secret jusqu'à sa naissance et plus loin encore. Qu'on sache qu'un enfant est en train d'arriver ne supprime pas l'effet de surprise, car la question que sera cet enfant quand il sera né, on ne pourra que répondre, on ne le saura que quand il sera né. Toutes ces choses tiennent justement du secret que seul le temps peut dévoiler. La poésie, c'est le bruit de l'âme. Elle fond dans les cœurs, puis les rend vulnérables. Quand on écrit de la poésie, ou quand on lit, ou quand on en écoute, quand on y accorde de l'attention, on découvre que toute la stupidité de l'homme peut être pardonnée justement à cause de la beauté de son âme. Et cela, messieurs, c'est ce qui fait que l'humanité aura toujours de l'espoir. Tout n'est pas perdu. Dans l'âme du poète, il y a de la grandeur. Et c'est cela qu'on fait ici. On discute de ce qui fait la grandeur. Et l'une de ces choses, c'est la poésie. L'authenticité dans le langage de l'âme, elle est dans la poésie. Que ce soit un quatrain, un alexandrin, les vers que prononce la bouche du cœur seront toujours perçus par les oreilles d'un autre cœur, auquel ils sont adressés. Je suis content de vous faire découvrir ce travail de mon illustre collègue. En attendant, moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Icepod. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et faites de la poésie. À plus. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cet épisode ou n'importe lequel des autres que j'ai pu mettre à votre disposition jusque-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à me faire un don de n'importe quelle nature qu'il sera. Je suis disposé à le recevoir. Nous avons besoin de tout le support que nous pouvons avoir pour faire grandir cette chose que nous sommes en train de faire ici. Bientôt, nous aurons une page Patreon sur laquelle vous pourrez avoir accès à des épisodes plus exclusifs. Nous aurons aussi une page YouTube sur laquelle vous pourrez voir ma vilaine face. Et bientôt, il y aura une page Instagram sur laquelle nous pourrons interagir de façon moins figée. Alors, d'ici là,